si tu es en Christ, tout en lui est admirable. Tout en lui est admirable. Tout en lui est grâce. Réalise que toutes les choses qu'il te donne, dans lesquelles tu es, sont admirables. Elles sont admirables. En Christ, tout est admirable. Tout est merveilleux en lui. Tout est merveilleux en lui. Tout est admirable en lui. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable en toi, Seigneur. Et je bénis ton nom, toi qui m'as placé en toi. Toi, Dieu qui m'as placé en Christ. En Christ, tout est admirable. Tout est merveilleux. Tout est digne de louange. Tout est glorieux. En Christ, tout est glorieux. En Christ, tout est glorieux. Et je me réjouis d'être en toi ce matin. Je me réjouis d'être en toi ce matin. Je me réjouis d'être en toi. Je me glorifie d'être en toi, Seigneur. Oh, c'est un sujet de fierté pour moi que d'être en toi. Que d'être en toi, c'est ma plus grande richesse. C'est ma plus grande richesse d'être en toi, Seigneur. Parce qu'en toi sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En toi, toutes les richesses sont incluses. En toi, toutes les bénédictions sont là, Seigneur, en toi. En toi, tout n'est que grâce. En toi, en toi, en toi et en toi seul. Tout est grâce en toi. Oh, tout est grâce en toi. La vie est une grâce en toi. La santé est une grâce en toi. La bénédiction est une grâce en toi. Tout n'est que grâce en toi. En toi, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce en toi. Tout n'est que grâce en toi. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Oh, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Oh, tout n'est que grâce. La paix est une grâce de toi, Seigneur. L'amour est une grâce de toi. La santé est une grâce de toi. Seigneur, le vêtement est une grâce de toi. Tout n'est que grâce en toi. Tout n'est que grâce en toi. Tout n'est que grâce en toi. Oh Seigneur, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout est glorieux en toi. Tout est glorieux en toi. Tout est glorieux en toi. Oh, tout est glorieux. Oh Seigneur, aide-nous à réaliser ce matin. Saint-Esprit, aide-nous à réaliser qu'en toi tout est glorieux. Que notre plus grande richesse se trouve est d'être en toi. En Christ. En Christ. En Christ. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Aucun ennemi ne peut m'atteindre. Il faut qu'il touche à Christ d'abord. Parce que je suis en Christ, j'ai droit à tous les trésors de Dieu. Parce que je suis en Christ, je suis aimé de l'amour de Dieu. Parce que je suis en Christ, je reçois toutes les grâces, les bontés, les richesses incomparables de Dieu. Parce que je suis en Christ, j'ai sa santé, j'ai sa santé. Oh, parce que je suis en Christ, je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que je suis en Christ, la paix est le lot de mon âme. Parce que je suis en Christ, l'amour est le lot de mon âme. Parce que je suis en Christ, la fidélité de Dieu est le lot de mon âme. Parce que je suis en Christ, la bonté de Dieu est mienne. Parce que je suis en Christ, sa fidélité et sa miséricorde chaque jour se répand sur ma vie. Et je les vois. Et je dis, tout en toi est admirable, Seigneur. Et je dis, tout en toi est merveilleux. Tout en toi est merveilleux. Car tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses. Toutes choses. À merveille. Amen. Nous acclamons le Seigneur merveilleux. Le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Le prince de la paix. C'est pas des acclamations pour le roi des rois, ça. Pour le roi des rois, des acclamations pour le roi des rois, le prince de paix, le prince de la vie, celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi, des acclamations pour le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui règne, qui est merveilleux. Oh, des acclamations. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté de toi que tout en toi dise qu'il est merveilleux. Que tout en toi dise qu'il est merveilleux. Que tout en toi dise qu'il est merveilleux. qu'il est merveilleux, que tout en nous le glorifie. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous vous accueillons et nous vous disons bonjour. C'est un bonjour. C'est ce que ça veut dire, bonjour. C'est pour ça que j'aime dire aux gens bonjour, plus que salut. Parce que salut, ah, ça ne veut rien dire, mais bonjour, c'est un bonjour que l'Éternel a fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous accueillons aujourd'hui un invité. Il n'est pas totalement invité parce que vous le connaissez déjà. En tout cas, ceux qui sont anciens le connaissent déjà. C'est le pasteur Ken de Philadelphie. Mais cette fois-ci, au moins, c'est bien parce qu'il n'est pas venu tout seul. Et nous allons l'acclamer pour lui et pour sa femme. Nous allons leur demander de se tenir debout. Donc, nous sommes vraiment ravis de les avoir au milieu de nous et surtout à maman. Bienvenue au milieu de nous. Enfin, vous mettez des visages à tout ce qu'il vous a raconté. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir au milieu de nous. Nous allons lui céder la place et que le Seigneur nous parle au travers de sa bouche. Merci.
Bonjour tout le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous aujourd'hui. Ça va faire pratiquement une année depuis la dernière fois. Mais comme Marlette disait, je ne suis pas seul. Je suis venu avec ma charmante épouse, hein, ma chère étendre. Voilà, elle s'appelle Nathalie. Nous avons 3 enfants avec elle, rien qu'avec elle, parce que c'est ma seule et unique femme. Nous avons Ruby, Seraya et Moriel, le tout dernier, le garçon. Ils sont de l'autre côté, à la fin vous pourriez le voir. Je m'en vais remercier le pasteur Doudou qui n'est pas avec nous, ainsi que son épouse. Ils nous ont permis d'être avec vous et de partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Tout à l'heure, quand les prophétiques sortaient, j'ai eu des frissons parce que le Seigneur était comme en train de me confirmer les choses que je devais parler ce matin. Et c'est merveilleux quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur. Tout à l'heure, je me sentais si bien, j'ai regardé mon épouse, je voyais comment elle se sentait si bien. Vous savez, quand vous entrez quelque part où il y a la présence de Dieu, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Et même de foi, vous avez besoin de croire que Dieu est là. Mais de fois, vous savez que Dieu est là. Et je nous prie de saisir ce matin ce que le Seigneur va nous communiquer parce que je sais que la vie de quelqu'un sera transformée. Nous allons nous incliner pendant un temps dans la prière. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me, my daily bread. This is my daily bread, daily bread. My day, oh Jesus, your very words spoken to me, and I am Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Ce matin, c'est celui-ci. Les trois expériences de Jacob. Les trois expériences de Jacob. Et le premier texte se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 28. Nous lirons du 10e au 19e verset. Genèse 28, 10 à 19. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montait et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est dans ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, que quelqu'un dise que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, que quelqu'un dise Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Genèse toujours, mais le 32e chapitre. Nous partirons du verset 24 jusqu'au verset 31. 32, 24 à 31. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aimais béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, que quelqu'un dise Peniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. Et notre dernière lecture, du moins pour l'instant, c'est toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 35. Et nous lirons du 1er au 7e verset. 35, 1 à 7. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays des Canaan. Le verset 7 dit, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, que quelqu'un dise El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Bien-aimé, la croissance, l'évolution, le progrès est l'attente de Dieu, le désir de Dieu, le souhait de Dieu pour chacun de ses enfants. Dieu veut te voir aller de l'avant, Dieu veut te voir avancer, Dieu veut te voir évoluer. Dans les années qui arrivent, le Seigneur reviendra pour voir combien de pas plutôt tu as fait vers l'avant. Et l'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu progresses, que tu ailles de l'avant. Et même ailleurs, il lui dit, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Il faudrait que tout le monde remarque tes progrès. Il faudrait que tout le monde remarque que des choses ont changé dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie, que ce soit dans le spirituel, dans le matériel, dans les finances, dans le social. Il faudrait que nous puissions avancer. Déjà que nous-mêmes, nous servons un Dieu dynamique, un Dieu qui bouge, un Dieu qui évolue, un Dieu qui avance, un Dieu qui agit. Nous devons évoluer avec Dieu, nous devons être dynamiques également, alléluia. Nous devons aller, la Bible dit que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Seigneur attend que nous puissions passer d'une gloire à une gloire supérieure dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les aspects de notre vie, alléluia. Or, suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Frère, il n'est pas normal que plusieurs années plus tard, que tu restes toujours au même point, que tu n'évolues pas. Non, ça c'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, servons est un Dieu qui bouge. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et le Seigneur veut que ta vie soit une vie en mouvement. Pas un mouvement vers l'arrière, mais un mouvement vers le progrès. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un, au nom de Jésus, à partir de ce matin, ta vie sera dans une forte évolution. Nous devons grandir dans les choses de Dieu, dans notre conception des choses de Dieu, dans notre compréhension des choses de Dieu, dans notre perception des choses de Dieu. Nous devons évoluer, nous devons grandir. Dans notre foi, nous devons grandir. Dans notre vie de prière, nous devons évoluer. Nous devons aller beaucoup plus profondément dans notre vie de prière. Alléluia. Être plus intense dans notre communion avec Dieu. Être plus intime dans notre relation avec le Seigneur. C'est à ça que le Seigneur nous attend, que nous puissions aller d'une gloire à une gloire supérieure. Alléluia. Nous devons grandir dans notre connaissance de Dieu, grandir dans notre obéissance, grandir dans notre soumission, grandir dans notre fidélité à Dieu. Jacob se retrouve en train de fuir son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, alors que son frère Ésaü, qui n'avait pas d'égard pour les choses spirituelles, revenait de la chasse, revenait de la forêt, parce que Jacob avait un frère jumeau, Ésaü. Et déjà, dans le sein de la mère, il y avait une lutte. La mère éprouvait des douleurs dans son sein alors qu'elle attendait famille. Et un jour, alors qu'elle s'est lamentée, qu'elle murmurait au-dedans d'elle-même, Dieu lui a dit, dans ton sein, il y a deux nations. Mais le plus jeune va assujettir le plus âgé. Il va supplanter le plus âgé. Et quelques années plus tard, la parole de Dieu s'accomplit. Les enfants qui arrivent au monde, le plus jeune supplante le plus âgé. Mais comment cette histoire commence? Comme nous le savons dans la Bible, Jacob c'était un homme paisible, c'était un homme calme. Lui, il aimait rester sous la tente. C'était un homme qui passait son temps à réfléchir sur les choses. Et son frère Ésaü, par contre, c'était un homme habile dans la chasse. Et c'était un homme un peu agité qui, lui, il aimait chasser, il aimait courir derrière les gibiers. Et ce jour-là, alors qu'il rentrait de la chasse, de la forêt, il n'avait rien eu. Et il avait une très grande faim. Il trouve son frère en train d'apprêter un mets très succulent, un mets qu'il aimait. Alors il lui demande, est-ce que tu peux me donner de ta nourriture parce que j'ai faim? Et Jacob, un homme qui réfléchit certainement, qu'il avait déjà ses idées derrière la tête et il n'attendait plus que l'opportunité pour passer à l'action. Alors quand Ésaü lui demande de la nourriture, il dit, voilà l'occasion que j'ai toujours attendue est arrivée. Il lui dit, écoute, je veux te donner ma nourriture, mais à une seule condition. Il faudra que tu me donnes le droit d'aînesse, que je devienne l'aîné de la famille aujourd'hui. Cela avait une grande portée spirituelle parce qu'en Israël, le Seigneur donnait la responsabilité de la famille, la responsabilité même spirituelle au fils aîné. Et vous allez voir que même l'héritage que Dieu a fait descendre à Abraham, l'héritage descendait de père en fils, mais ne passait que par des aînés. Alléluia. Que ce soit l'héritage matériel, que ce soit l'héritage spirituel, cela descendait sur les aînés. Et dans la maison, c'était les aînés qui offraient le sacrifice. C'était les premiers-nés de la maison qui étaient des sacrificateurs de la maison. Mais ça, c'était des choses que Ésaü a négligées. C'était des choses qui n'avaient aucune importance. Il ne donnait pas de valeur aux choses spirituelles. Pour lui, le droit d'aînesse ne voulait rien dire. Et pourtant, pour Dieu, cela avait une grande importance, une signification profonde. Parce que rappelez-vous que le jour où le Seigneur a épargné les premiers-nés d'Israël à Goshen, en Égypte, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez mettre le sang de l'agneau sur le linteau de vos portes. Quand l'ange de la mort passera, il passera outre. Mais pourtant, en Égypte, là où il n'y avait point de sang sur le linteau, tous les premiers-nés étaient morts. Que ce soit les premiers-nés des hommes, que ce soit les premiers-nés des animaux, du plus petit au plus grand, même des vieux, peu importe, il suffisait que tu sois premier-né, même parmi le bétail, l'ange de la mort frappait. Mais à Goshen, là où il y avait le sang, les premiers-nés étaient épargnés. Et Dieu dit à Moïse, les premiers-nés seront ma propriété. Les premiers-nés seront mon héritage. Les premiers-nés, ça sera à moi. Ça sera un héritage, ça sera pour moi et personne ne pourra y toucher. C'était une exclusivité de l'Éternel. Et comme vous l'avez certainement vu dans la Bible, quelque temps plus tard, Dieu est revenu vers Moïse comme pour lui dire, écoute, nous allons faire un deal, nous allons passer un marché. Je vais vous restituer les premiers-nés, mais vous allez me donner une tribu, les Lévites. Les Lévites vont remplacer les premiers-nés. Désormais, quand je regarderai les Lévites, ça sera pour moi les premiers-nés, les
prémices en Israël. Voilà pourquoi même le sacerdoce, quand les sacerdoces sont venus par Aaron, Dieu a confié les sacerdoces à Aaron et à ses fils. Dieu a confié les sacerdoces aux Lévites. Alléluia. Être prémié avait une profonde importance aux yeux de l'Éternel. Et ce sont des choses qu'Ésaü a foulées aux pieds. Mais il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire allait avoir des conséquences et des sérieuses conséquences. Bien-aimé, il y a des fois, nous posons des actes sans réfléchir au lendemain, sans réfléchir à ce qui va venir demain. J'aime le pasteur, mon pasteur, le pasteur Roland, qui dit toujours, l'usine qui fabrique les « ah, si je savais » de demain, c'est les décisions et les choix d'aujourd'hui. Les décisions et les choix que tu fais aujourd'hui déterminent la vie que tu vas mener demain. Si tu seras dans le regret, si tu seras dans la tristesse demain, c'est aujourd'hui que tout est déterminé. Il y a des décisions que tu peux refuser de prendre. Il y a des choses que tu peux refuser de faire plutôt. Bien-aimé, pensons à l'avenir, pensons au lendemain, car tous nos choix portent des conséquences. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et vous savez, la Bible dit que plus tard, il a voulu récupérer cela et même qu'il a pleuré amèrement. Mais rien ne pouvait plus être changé parce que ce qui était fait était déjà fait. Alléluia. La Bible dit, de jour après, alors que son père était sur le point de mourir, son père Isaac, le père d'Ésaü et de Jacob, il a appelé son fils aîné parce que le principe c'était que l'héritage descende sur le fils aîné. Il appelle Ésaü, il lui dit, écoute Ésaü, je m'en vais mourir, mais je voudrais te léguer l'héritage. Pour montrer que cet héritage était plus spirituel que matériel, il dit, l'héritage ne s'accordait pas en prenant de bien et en donnant à l'enfant, mais c'était par des paroles que l'on prononçait sur l'enfant. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez des enfants, faites attention aux mots que vous dites sur vos enfants. Surtout dans vos moments d'émotion, dans vos moments de colère. Faites attention sur les paroles que vous déclarez, parce que cela va les poursuivre toute leur vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Bénissons nos enfants, proclamons des paroles de bénédiction et cela va les poursuivre, cela va s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Alors il lui dit, écoute, je vais te bénir, mais va prépare-moi cette nourriture que j'aime. Quand je mangerai, je te bénirai. La Bible dit que Rebecca, leur mère, avait entendu cela. Et alors quand Ésaü est allé chercher l'animal pour son père, il est rapidement allé chez Jacob, puisque lui aimait Jacob. Il a dit, écoute, voilà que ton père est sur le point de donner, de léguer l'héritage à ton frère. Mais moi, je voudrais que toi, tu puisses obtenir cela. Voilà ce que nous allons faire. Je vais passer rapidement, comme nous connaissons tous cette histoire. Il lui a demandé d'aller prendre un animal. Elle a elle-même préparé cet animal comme le père aimait. Il est venu donner cet animal au père. Et quand le père mangeait, le père a béni Jacob. Nous allons revenir un peu plus tard. Mais la Bible dit qu'à cause de cet acte, la haine, une grande haine est montée dans le cœur d'Ésaü. Parce que quand Ésaü est venu finalement pour avoir la bénédiction du père, le père lui a dit, c'est tard, je l'ai déjà donné à quelqu'un d'autre. Et il lui a même dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre bénédiction que tu peux me donner? Il lui dit, mon fils, c'est parti. Écoutez frère, nous devons faire attention dans la vie. Il y a des opportunités qui ne reviendront pas deux fois. Alléluia. Il y a des choses qui ne reviendront pas deux fois. Il y a des portes que Dieu n'ouvrira pas deux fois. Amen. Voilà pourquoi je te prie ce matin que tu te connectes, que tu demeures connecté à Dieu. Afin que quand la porte s'ouvre, que l'Esprit du Seigneur te pousse à y entrer. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront pas deux fois. Alléluia. Et c'est ainsi que Ésaü a commencé à poursuivre son frère à cause de cette grande haine qu'il avait dans son cœur. Et même qu'il a dit, voilà, notre père est en train de mourir. Et quand il sera mort, je vais me venger, je vais tuer mon frère. Rebecca a entendu cela et elle est allée dire à Jacob, Jacob, va loin, va chez Laban, reste là jusqu'à ce que je te ferai revenir. Parce que voici ce que ton frère pense à ton propos. Et c'est comme ça que Jacob est devenu comme un errant. Il errait, il cherchait où habiter. Il avait perdu la paix parce que constamment il craignait que son frère le retrouve et qu'il le tue. Sa vie avait perdu de paix, sa vie avait perdu de joie. Pourquoi? Parce que Jacob a fait une erreur. Jacob avait la promesse de Dieu, mais Jacob n'avait pas besoin de l'aide d'un homme ou même d'une femme pour entrer dans son héritage. Alléluia. Bien aimé, les choses que Dieu a dites sur nos vies, le Seigneur va les accomplir. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit sur moi. Si Dieu a la mère, Dieu avait dit que le plus jeune sera plus grand que le plus grand. Il n'avait pas besoin que Rebecca intervienne. À chaque fois que nous essayons d'aider Dieu, cela constitue une brèche par laquelle l'ennemi entre pour nous nuire. Alléluia. Frère, sœur, Dieu t'a dit quelque chose. Tu as une promesse du Seigneur. Attends. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Attends, elle s'accomplira si elle tarde. Attends, parce qu'elle s'accomplira certainement. La prophétie va déjà vers son accomplissement. La prophétie court. Amen. Ce que j'aime, c'est que Dieu dit, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aime parce que le Seigneur, à la fois, le Seigneur nous donne même une évidence. Le Seigneur nous fait quitter la dimension de la simple espérance à la dimension de la certitude. Il dit certainement, ce que je t'ai dit, je vais l'accomplir. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Laisse Dieu être suffisamment Dieu dans ta vie. Alléluia. Et c'est alors que Jacob est en train de fuir qu'à un moment donné, fatigué, il se décide de se reposer. Et pendant qu'il se repose, il prit une pierre, comme la Bible nous dit, dont il fit le chevet, et il ferme les yeux, il s'endort. C'est dans son sommeil que le Seigneur vient le visiter. La Bible dit que Jacob a eu une vision. Il a vu le ciel s'ouvrir. Et une échelle est descendue. Le sommet touchait le ciel et le bas touchait la terre. Alors il a vu des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. C'est en ce moment-là que le Seigneur s'est mis à lui parler. Dieu lui a confirmé la bénédiction d'Abraham. Dieu lui a dit des choses qu'il allait faire pour lui. Et le Seigneur lui a dit, ces choses que je suis en train de te dire, je vais les exécuter. Quand Jacob se réveille, il était saisi par la grandeur de la vision qu'il venait de recevoir. Il se lève et dit, waouh, c'est pas possible. Cet endroit, c'était la porte des cieux et moi, je ne le savais pas. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Ils viennent dans la maison du Seigneur, mais ils ignorent que c'est la maison de Dieu. La preuve, vois tout simplement la manière avec laquelle tu viens dans la maison de Dieu. Tu viens dans la présence du Seigneur avec tellement de légèreté que quand Dieu dit des choses, tu passes à côté parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu qu'il y a dans la maison de Dieu. Plusieurs sont comme Jacob. Je suis dans la maison du Seigneur, mais je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais su que j'étais toujours à côté de la porte du ciel. Écoutez, s'il y aura des pleurs au ciel, je sais que ce sera des pleurs de joie, des larmes de joie. Mais n'y aurait-il pas des larmes de regret, vous qui connaissez la Bible très bien, mon frère? Parce que, écoutez, il y a des gens qui se rendront compte, alors que nos yeux spirituels vont s'ouvrir et que nous allons accéder à toute la connaissance, il y a des gens qui verront les projets que l'Éternel aurait fait pour eux. Et c'est en ce moment-là que l'on comprendra que nous étions très souvent près de la porte, mais nous ne le savions pas. Jacob dit, waouh, c'est ici la maison de Dieu, et moi je ne le sais pas. Mais écoutez, il y a une chose qu'il dit, qui m'a beaucoup touché. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, puis il dit que ce lieu est redoutable. Jacob ne dit pas que ce Dieu est redoutable, mais il dit que ce lieu est redoutable. Malgré toute la vision du Seigneur que Jacob a reçue, Jacob, au lieu de s'attacher au Dieu de la vision, il est resté attaché à la vision de Dieu. Au lieu de saisir celui qui se révèle à lui, Jacob est resté attaché aux choses par lesquelles Dieu s'est manifesté. Ça, c'est le piège dans lequel nous tombons souvent. Nous nous attachons aux choses que Dieu fait au lieu de nous attacher au Dieu qui fait des choses. Nous nous attachons des fois aux hommes de Dieu au lieu de nous attacher au Dieu des hommes. Et voilà pourquoi nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce que nous recherchons plus la main de Dieu plutôt que la face de Dieu. Et vous allez voir combien nous ne créons pas de retraites, de moments de prière. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour les messages de tout à l'heure. Seigneur, pense à moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ouvre pour moi, Seigneur, donne-moi. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur n'intervient que dans la mesure où il sait reconnaître en nous son intérêt. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable est en train de tout faire afin de garder nos esprits focus, concentrés sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts. que nous voulons nous-mêmes. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, pense à moi. Ces choses sont bien, je les aime aussi. Je prie pour que Dieu fasse pour moi des choses. Mais le Seigneur a quelque chose de plus fort que toutes ces choses. Ce qui intéresse Dieu, écoutez, le Seigneur n'est pas dérangé par le fait qu'il prenne ce que tu lui demandes et qu'il te donne. Mais pourquoi il ne te donne pas? Parce que Dieu recherche quelque chose de plus profond en toi. Dieu cherche un cœur attaché à lui. Alléluia. Jacob dit que ce lieu est redoutable. Jacob, c'était le genre d'homme qui reste attaché aux formules. Hier, j'ai fait ci, Dieu a fait ça. Donc, à chaque fois que je ferai ci, Dieu fera toujours ça. Non, Dieu n'est pas attaché aux formules. Alléluia. Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, va à gauche, je ferai. Et demain, il te dit, va à droite, je le ferai. Nous devons rester dépendants de Dieu. Amen. Le Seigneur n'est pas... On ne peut bloquer Dieu dans une formule. On ne peut résumer Dieu. On ne peut bloquer Dieu dans une boîte. Pas du tout. Le Seigneur bouge. Le Seigneur est dynamique. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi nous devons ouvrir nos esprits à Dieu, à l'orientation du Seigneur. Rappelez-vous de David. La Bible dit que quand David fut loin, les Philistins l'ont appris et sont montés vers lui pour lui faire la guerre. David est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, vas-y, monte contre eux. Je te les livre. Il est monté contre les Philistins et il a eu la victoire. La Bible déclare que quelque temps plus tard, les mêmes Philistins sont revenus monter contre David pour lui faire la guerre. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude, c'est le cœur de David. Dieu, donne-nous le cœur de David. La Bible déclare que David est de nouveau reparti consulter l'Éternel. David ne s'est pas dit, je connais les Philistins. Je connais comment Dieu agit. Je connais les stratégies militaires des Philistins. Je connais comment les avoir. Je connais leurs faiblesses. Pas du tout. Il ne s'est pas confié à ses aptitudes, à ses habiletés, à ses atouts. Non. Mais quand les Philistins revenaient, il est reparti consulter l'Éternel. Heureusement pour lui, parce que Dieu lui dit non, cette fois-ci ne monte vers eux, mais retourne, détourne plutôt par derrière. Et quand tu entendras les bruits des pas sur les cimes des mûriers, alors vas-y, car je suis avec toi. Et David a fait cela et il a eu de nouveau la victoire. Frère, peu importe l'expérience que tu as dans le domaine dans lequel tu travailles, consulte l'Éternel. Ne te fie jamais à ta sagesse, ne te fie jamais à ton expérience, ne te fie jamais à ton intelligence. Dieu sait, Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et des fois, nous restons, comme je disais, attachés aux formules au lieu de nous attacher à Dieu. Et vous allez remarquer dans la vie de tous les jours que ces chrétiens qui s'attachent aux choses que Dieu fait, au lieu de s'attacher à Dieu, facilement ils lâchent quand des temps deviennent difficiles. Facilement ils s'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le temps d'épreuve arrive. Puisque tu n'étais pas attaché à Dieu, tu vas facilement renier Dieu. Mais si tu t'attaches à Dieu, écoutez, je vais vous dire une chose. Si je m'attache aux choses de ce monde, les choses de ce monde vont me séparer de Dieu. Mais si je m'attache à Dieu, Dieu va attirer vers moi les choses de ce monde. Oh, quelqu'un est passé à côté de... La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose va venir par-dessus, par surcroît. Dieu attirera toujours vers nous les choses dont nous avons besoin si nous demeurons attachés, connectés, branchés à lui. Oh, je prie que le Seigneur nous garde attachés à lui. Jacob, après avoir vu cette expérience, regardez même le nom qu'il donne à cet endroit. Il dit, cet endroit ne sera plus appelé Luz, parce qu'autrefois l'endroit s'appelait Luz. Il dit, désormais cet endroit sera appelé Bethel. Bethel veut tout simplement dire la maison de Dieu. Cela exprime son cœur, cela démontre son cœur. Il est resté attaché à la maison de Dieu et pas au Dieu de la maison. Oh, je prie que quelqu'un ce matin puisse lâcher les choses auxquelles il est attaché pour s'accrocher à Dieu et à Dieu seul. Et vous allez voir une chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérience que le Seigneur voulait que Jacob fasse par la vision de Bethel. Mais Jacob est passé à côté. Et Dieu a su que Jacob n'avait pas suffisamment d'intelligence, suffisamment de maturité pour saisir ce qu'il voulait lui communiquer. Et le Seigneur l'a envoyé plus loin. La Bible dit, après avoir passé le temps chez Laban, Après avoir épousé ses femmes, après avoir eu des enfants, le Seigneur se révèle à lui afin qu'il reparte. Et c'est sur le chemin de retour, alors qu'il est en train de rentrer avec ses épouses, ses enfants, ses serviteurs et tout ce qu'il avait comme richesse, à un moment donné, puisque son frère Ésaü était en train de venir pour les rencontrer, il s'est rappelé de tout ce qui s'était passé à la maison de leur père. Il s'est dit, mon frère va certainement me faire du mal. Alors il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelque chose qu'il n'avait pas. La Bible dit, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob demande à ses fils de partir, de le précéder. Il demande à ses épouses de le précéder. Il demande à ses enfants de le précéder. Aux animaux, au bétail, de les précéder. La Bible dit que Jacob est resté seul. Et c'est alors qu'il est resté seul que l'ange de Dieu est venu vers lui. C'est alors qu'il était dans la solitude que l'Éternel est venu vers lui. C'est alors qu'il est resté seul que Dieu est venu vers lui. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop souvent avec des gens. Nous sommes tellement préoccupés, tellement attachés aux choses de la vie, tellement souciants de ce qui se passera demain. Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Seigneur, de quoi serai-je vêtu demain? Seigneur, de quoi demain sera fait? Et on se soucie des enfants à gauche, de la femme à droite, du travail, des études. Toutes ces choses sont bonnes, mais dans la mesure où elles constituent un obstacle, nous passons à côté de la bénédiction du Seigneur. Et Dieu pouvait venir vers lui plus tôt, mais le Seigneur n'est pas venu plus tôt aussi longtemps qu'il était trop encombré. Frère, tu es trop encombré, il y a trop de choses autour de toi, il y a trop de choses dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu te dit tellement de choses, mais tu ne peux le saisir parce que ton esprit est tellement rempli. Dieu attend quelqu'un ce matin dans la solitude. Que tu te déconnectes de tout ce qui te préoccupe, de tout ce qui te remplit. Frère, crée un temps pour Dieu. Crée un moment pour le Seigneur. Dieu a besoin d'un temps d'intimité, rien qu'avec lui, seul à seul. Je veux être avec Dieu. Et je soupire après ce temps où il se lèvera de nouveau cette génération qui viendra vers Dieu, pas pour dire « Père, donne-moi, Père, fais pour moi, Père, pense à moi », mais il viendra dans la présence de Dieu comme pour dire « Seigneur, je suis venu rien que pour toi ». Et vous savez, nous avons tellement habitué Dieu à faire des jeûnes, de retraites, de demandes, que quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu sait déjà, il vient, il dit « Fils, qu'est-ce que tu veux ?» Mais écoutez, le jour arrive où Dieu sera très surpris. Qu'il ose me demander, père, fils, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, Seigneur, je veux rien. Je te veux toi. Seigneur, rien que ta présence, cela me suffit. J'ai aimé la chanson que Cyril a entonnée quand on a commencé le culte. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est le vœu de mon cœur. Tous les jours, au-dedans de moi, je pleure. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi demeurer dans ta présence. Laisse-moi m'asseoir dans le lieu où réside ta gloire. Père, laisse-moi être constamment connecté à toi. Et des fois, quand je me rends compte que j'essaie de faire par mes efforts, je n'y arrive pas. Je dis, Père, que cela ne soit pas une mérite. Viens, prends-moi par la main. Que cela soit une grâce, une simple grâce. Fais-moi habiter dans ta présence. Que je demeure dans ta présence. C'est quand il est resté seul que Dieu est venu vers lui. Le Seigneur attend quelqu'un dans la solitude. Il y a un passage de l'Ancien Testament que j'aime. Ça doit être dans Osée ou dans Amos. La Bible dit, je la tirerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu veut que tu te retires de tout ce qui t'encombre. Le retrait dont je parle n'est pas forcément physique, mais c'est avant tout intérieur, c'est avant tout spirituel. C'est une disposition d'esprit, c'est une attitude intérieure. Oh, Jesus. Seigneur, crée à moi cette disposition intérieure, que mon cœur s'ouvre à toi, que mon cœur attende de toi. Père, j'oublie le souci de tous les jours. Je viens passer du temps avec toi. Le Seigneur a des choses qu'il veut te communiquer, mais il faut que tu te retires. L'ange vient vers Jacob et l'ange se met à se battre avec Jacob. La Bible dit qu'ils se sont battus à un moment donné, l'ange voulait se retirer de la présence de Jacob, ou plutôt il voulait sortir Jacob de sa présence. Alors qu'il le sortait, Jacob s'attachait, alors qu'il le repoussait, Jacob, oh bien-aimé, que rien ne te détache de la présence de Dieu, que rien ne te déconnecte de sa présence, qu'aucune femme, qu'une fille ne te déconnecte pas de la présence de Dieu, que le souci du siècle présent ne te déconnecte pas de la présence de Dieu. Rien n'est plus précieux que la communion que tu as avec le Seigneur. L'ange le repoussait, lui il revenait. De la persévérance. Jacob, c'était le genre d'homme déterminé. Quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Regardez même quand il fallait qu'il épouse Rachel. On lui a donné Léa, mais puisque dans son cœur, il était focalisé sur Rachel, il est resté déterminé jusqu'à ce qu'il aille Rachel. Et là, l'ange voulait les sortir. Il s'est dit, pas du tout. Je sais ce que je cherche. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de déterminé ce matin, Seigneur? Déterminé dans ton moment de prière. Déterminé dans ta quête de Dieu. Déterminé dans ta recherche de choses spirituelles. La persévérance paye. Péniel, c'est le lieu de la persévérance dans nos moments de prière. Vous savez, ça ne sera pas toujours aisé. Des fois, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu as comme l'impression que tout est contre toi. Jacob avait aussi cette impression. Il avait l'impression que même l'ange de l'Éternel, même Dieu lui-même était contre lui. Il ne voulait pas qu'il reste dans sa présence. Il y a des moments comme ça où tu auras l'impression que même Dieu est contre toi. Mais ce que Dieu est en train de faire en toi, c'est développer ta persévérance et ta détermination. Parce que la persévérance paye toujours. Péniel, c'est le lieu de la persévérance et de la détermination. Péniel, c'est le lieu de la maturation. Péniel, c'est le lieu d'une expérience personnelle avec Dieu. La Bible déclare que quand l'ange n'arrivait pas à le détacher de lui, il ne frappa l'emboîture de la hanche. Un frère a dit, il ne frappa l'emboîture de la hanche. À l'emboîture, frère, l'emboîture de la hanche. Et il s'est brisé la hanche. Frère, j'ai dit, c'est le lieu d'une expérience personnelle. Et Dieu veut que tu puisses avoir une expérience personnelle avec lui. Ce qui manquait à Jacob, c'est que Jacob n'avait jamais connu Dieu personnellement. Jacob connaissait le Dieu de papa et de maman, mais il n'avait pas connu Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que même quand Dieu se révèle, au lieu de se connecter à Dieu, il se connecte aux choses que Dieu fait. Parce qu'il n'avait jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. La Bible dit que Jacob ne connaissait pas Dieu. Et il est possible d'évoluer dans un milieu chrétien, mais de ne pas connaître Dieu. Il est possible d'évoluer dans une église chrétienne, mais de ne pas connaître Dieu. Il est possible même de servir Dieu dans une église, mais de ne pas connaître Dieu. Frère, c'est possible. Tu as une responsabilité dans l'église, mais tu n'as jamais eu une expérience réelle et authentique avec Dieu. Rappelez-vous de Samuel. La Bible dit que Samuel dormait dans le temple. Samuel dormait même à côté de l'arche. Mais quand Dieu l'appelle, Samuel ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Samuel évoluait dans le temple. Il connaissait tout ce qu'on faisait dans le temple. Il connaissait comment préparer les ustensiles pour les sacrifices. Il savait comment préparer les habits pour le souverain sacrificateur. Il savait comment entretenir les lampes dans le temple. Il connaissait ces choses. Il connaissait. Un homme a dit que Samuel connaissait tout sur la maison de Dieu, mais il ne connaissait rien sur le Dieu de la maison. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? C'était le cas de Jacob. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin d'une expérience personnelle avec Dieu. Tu as besoin de te connecter personnellement avec Dieu. Et quand cela est arrivé, la Bible dit, l'ange l'a brisé l'emboîture de la hanche. Désormais, Jacob s'est mis à boiter. Jacob ne marchait plus comme autrefois. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Il a eu une expérience avec le Seigneur. Et il y a eu des traces qui sont restées. Frère, nous devons voir des traces de Dieu dans ta vie. Quand Dieu passe quelque part, il laisse toujours des traces. Tu ne peux pas me dire que tu as été connecté à Dieu sans pour autant que je voie les traces de Dieu dans ta vie. Je dois voir les traces de Dieu dans tes attitudes. Je dois voir les traces de Dieu dans tes comportements. Je dois voir les traces de Dieu dans tes réactions. Je dois voir les traces de Dieu dans ta vie de tous les jours. Et quand tu devais rencontrer et ses enfants, certainement qui marchaient d'une certaine manière, et ses femmes et ses enfants lui demandaient, mais Jacob, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient voir. Frère, on doit voir. Quand tu as été connecté à Dieu, on doit qu'il y a eu un bon parfum. Frère, même ceux qui sont contre, même les jaloux là, ils vont sentir, même quand ils vont nier, ils sauront dans leur conscience au plus profond d'eux-mêmes que le frère a mis un bon parfum. Les choses de Dieu, c'est semblable à un bon parfum. Frère, on doit les sentir, on va le voir. Dans ta vie, nous allons les voir, nous allons témoigner. Alléluia. Il a connu une expérience avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ange lui demande: quel est ton nom? À Péniel. C'est là que Dieu nous donne la révélation de nous-mêmes. Tu ne peux recevoir la révélation de Dieu sans pour autant que Dieu te pousse à la révélation de toi-même. L'ange demande à Jacob: quel est ton nom? Revenons quelques années en arrière. Le jour où Jacob est allé vers son père pour avoir la bénédiction, le père lui a posé la même question. Le père lui a dit: qui es-tu? Il a dit: je suis Ésaü. Alors qu'il n'était pas Ésaü, il était Jacob. Je vais ouvrir une parenthèse. Sa mère lui avait dit, alors qu'il disait à sa mère: mais mon frère ne parle pas comme moi. Mon frère est velu, moi je ne le suis pas. Quand le père m'entendra, quand le père me touchera, il saura que je ne suis pas Ésaü. La mère dit: écoute ce qu'on va faire. On va tuer un animal et tu vas te revêtir du peau de cet animal. Quand tu viendras vers le père va sentir l'odeur de l'animal, parce que Ésaü, habitué à la chasse et au gibier, avait l'odeur du gibier. Et quand il va te toucher, il saura que c'est Ésaü, parce que Ésaü était velu. Il touchera le peau de l'animal. Alors quand Jacob, écoutez bien, quand Jacob vient vers le père lui demande: qui es-tu? Il dit: je suis Ésaü. Alors qu'il était Jacob, le père dit: quand tu parles, j'entends la voix de Jacob. Mais quand je touche le corps d'Ésaü. Quand tu me parles, la voix, c'est Jacob. Mais l'odeur, c'est Ésaü. Mais quand je touche, c'est Ésaü. Alors je te bénis. Il n'a pas béni parce que c'était Ésaü. Il a béni, mais parce que quand il touchait Ésaü. Et quand il sentait l'odeur d'Ésaü. Bien-aimé, c'est profond. C'est ce qui s'est passé exactement avec l'Église. Quand nous venons vers Dieu, quand nous venons vers le Père, quand nous parlons, Dieu entend la voix de Jean-Christophe. Mais pour exaucer, Dieu touche. Et quand il touche le sang. Quand tu lui demandes, le Seigneur entend ta voix. Puisque tu n'es pas parfait, Dieu ne peut t'exaucer. Dieu n'exauce que Christ. Voilà pourquoi il dit, quand vous demandez quelque chose au nom de Jésus, cela vous sera accordé. Parce que Dieu ne nous agrée que par Christ. Et pour que Dieu t'agrée, pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te réponde, Dieu doit voir Christ en toi. Voilà pourquoi nous sommes couverts par la nature de Christ. Peu importe qui j'étais dans le monde, quand je viens vers Dieu, Dieu ne me voit pas, il voit Christ. Et quand il me touche, il ne me touche pas, il touche Christ. Alors, il me donne d'accéder à toutes les bénédictions d'Abraham par Christ, exactement comme Jacob a accédé à la bénédiction dînée à Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il portait le corps d'Ésaü. Nous nous sommes revêtus de la peau du Christ. Nous sommes revêtus de la nature du Christ. Voilà pourquoi nous sommes agréables à Dieu aujourd'hui. Le Père demande, je ferme la parenthèse. Le Père demande à Jacob: qui es-tu? Jacob dit: je suis Ésaü. Et ce jour-là, devant l'Éternel, la même question revient. L'ange de l'Éternel demande à Jacob: qui es-tu? Vous pensez que l'Éternel ne connaissait pas qui était devant lui? Si, il le connaissait. Mais quelque chose devait être fait qui n'était pas fait. Pourquoi? Parce que depuis le jour où Jacob a menti d'être Ésaü, il portait sur lui l'identité d'Ésaü. Et des choses que l'Éternel a prévu de faire avec Jacob, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la nature d'Ésaü. Il fallait que cette chose soit corrigée. C'était un mensonge que Jacob portait sur lui. Toute sa vie, il a traîné ce mensonge. Toute sa vie, il a traîné ce poids. Et même la bénédiction qu'il avait eue de son père, il n'avait pas eu comme Dieu voulait qu'il puisse le recevoir. Dieu voulait qu'il soit béni tant que Jacob, pas tant que Ésaü. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait jamais aller plus loin avec Jacob, aussi longtemps qu'il portait encore le mensonge sur sa vie. Bien-aimé, un ami m'a dit une fois: ne construis jamais ta maison avec les briques du diable. Parce qu'un jour, il te le redemandera. Ne construis jamais ta vie sur base d'un mensonge. Ne construis jamais une relation sur base d'un mensonge. Y a-t-il un péché que tu traînes dans ta vie? Frère, n'évolue pas parce que tes blocs, tu ne peux accéder à ce que Dieu a pour toi aussi longtemps que tu traînes sur toi cette chose que tu ne devais pas porter. Le Seigneur était sur le point de faire entrer Jacob dans une autre saison de sa vie. Mais il ne pouvait le faire aussi longtemps qu'il y avait un mensonge qui posait sur lui. Dieu lui dit, qui es-tu? Et c'est alors que Jacob se rend compte qu'autrefois Ésaü n'était qu'un homme qui pouvait mentir à tout le monde, qui pouvait même tromper son père. Mais ce jour-là, il était devant celui qu'on ne peut tromper. Alors il a regardé, l'ange de l'Éternel lui a dit, « Je suis Jacob. » Jacob veut dire « voleur ». Jacob veut dire « usurpateur ». Il dit, « Seigneur, je ne suis qu'un menteur. Je ne suis qu'un usurpateur. Je suis Jacob. Je ne suis qu'un impudique. Je ne suis qu'un fornicateur. Je ne suis qu'un voleur. Je ne suis qu'un escroc. » Dieu ne résiste jamais à la repentance. Dès l'instant que Jacob a reconnu son péché, son mal, Dieu l'a pardonné. Frère, le Seigneur est prêt d'oublier ce qui s'est passé hier afin de commencer avec toi une nouvelle histoire. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tout dépend de toi, frère. Si tu t'endurcis, c'est toi qui seras perdant. Mais si tu acceptes de reconnaître que tu es Jacob, Dieu peut changer ta vie. Et c'est quand il a reconnu que l'ange lui a dit, désormais, tu ne seras plus Jacob, tu ne seras plus un voleur, tu ne seras plus un usurpateur, mais désormais tu seras appelé Israël. Dieu a changé son identité, Dieu a changé sa vie et il est entré dans l'héritage qui lui était réservé parce qu'il a reconnu son mensonge, il a reconnu son péché. C'est ce que le Seigneur s'apprête à faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, frère, celui que tu prétends servir, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, quand on vient vers lui, sa lumière est tellement grande que nous nous rendons compte de notre état et nous tombons à ses pieds pour nous repentir, pour pleurer. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Ésaü, dans Ésaïe, le chapitre 6, je crois le verset 5. Quand Dieu lui donne cette grande vision, la Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a vu les séraphins qui volaient au-dessus de lui. Il a vu la gloire qu'il y avait dans la présence de Dieu. Cette grande révélation lui a donné la révélation de lui-même. Et il s'écria, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais mes yeux ont vu le roi. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là qu'un des séraphins vola sur l'autel. Il prit une pierre ardente, il le toucha dans sa bouche pour le purifier. C'est quand il a été purifié qu'il a entendu même l'appel de Dieu. Quand Dieu disait, qui enverrai-je? Avant, il ne pouvait pas l'entendre. Mais quand il a été purifié, il a entendu l'appel de Dieu. Et il a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il y a des choses que tu ne peux entendre parce qu'il y a des choses qui bougent tes oreilles. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? J'entends Dieu demander à quelqu'un ce matin, qui es-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Peniel, c'est aussi cet endroit où le Seigneur renouvelle notre soif de lui. Parce qu'après avoir connu tout ça, après avoir vécu tout ça, Jacob, à son tour, il demande à l'ange, quel est ton nom? Il a eu dans son cœur la soif de connaître Dieu, la soif de servir Dieu, la soif d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, avant, Jacob pouvait prétendre servir le Seigneur, mais ce service n'avait aucun impact dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'était pas connecté au Seigneur. Mais après, le service de Jacob avait été précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant que le Seigneur puisse agréer même ce que nous faisons pour lui, le Seigneur commence par nous regarder nous-mêmes. Alléluia. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les livres de Genèse avec Caïn et Abel. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Alléluia. Ce que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur, même les offrandes que tu apportes vers Dieu, même le service que tu lui rends, Dieu ne peut l'agréer que dans la mesure où il agrée ta vie. la Bible déclare, Peniel, c'est le nom que Jacob a donné à cet endroit. Parce que Peniel veut dire la face de Dieu. Quand il a vu la face de Dieu, les choses ont changé dans sa vie. Nous allons revenir tout à l'heure, plus tard. Mais ce que j'aimerais aussi nous dire, vous allez vous rendre compte que le même Dieu qui a dit à Jacob, tu seras plus Jacob, tu seras Israël, c'est le même Dieu qui commence même à s'identifier comme étant le Dieu de Jacob. Dans la Bible, on ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, non. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu du menteur, le Dieu de l'escroc, le Dieu de l'impudique. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre la grandeur de sa grâce. Il te rappelle que Jacob, je suis ton Dieu. Malgré tes défauts, malgré tes erreurs, je peux te changer. Je t'accepte comme tu es. Je t'accepte tel que tu es. Viens à moi. Non, ne cherche pas à changer d'abord. Avant de venir vers moi, viens vers moi. Moi, je veux te changer. Alléluia. Dieu te dit, je suis capable de te transformer. Tu ne pourras jamais le faire par toi-même. Je suis le Dieu de Jacob. Afin que l'on se rappelle encore aujourd'hui qu'il est celui qui a accepté Jacob et qui l'a transformé, qui l'a changé. Je prie le Seigneur que tu ne restes pas esclave de ce poids, de ce fardeau de culpabilité qui t'alourdit et qui pèse sur toi. Ça fait plusieurs temps déjà que tu es tombé dans ce péché, que tu as commis cette erreur. Mais jusqu'aujourd'hui, tu portes encore sur toi le poids de la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient du diable. Il veut te maintenir dans la faiblesse, dans la faille, dans la condamnation. Or, Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Christ a dit, je ne suis pas venu apporter un jugement. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous purifier, pour nous changer, pour nous connecter à Dieu. Alléluia. J'aime le dire, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour enterrer le mort, mais il est venu pour redonner de la vie au mort. Il est venu pour ressusciter le mort. Il a dit à Israël, je ne teindrai point la mèche qui fume. Je ne briserai point le roseau cassé. Le Seigneur ne nous a pas envoyé ce matin pour apporter un message de condamnation, non, mais plutôt un message de relèvement. Peu importe où tu es, peu importe. Écoutez, rappelez-vous de l'histoire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur qui regarde cette femme, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'avaient condamné? La femme regardant tout autour d'elle, ne voyant personne, elle se retourne vers Christ. Christ lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Le Seigneur n'a pas passé son temps à lui demander combien de mariages tu as brisé, combien d'avortements tu as eu à commettre. Non, c'était le temps de la restauration. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as fait, peut-être que tu es tombé hier soir, peu importe, Dieu est prêt pour repartir avec toi, pour recommencer avec toi. Le tout, que tu ne sois pas incrédule, que tu ne puisses pas t'endurcir, accepte le pardon de Dieu et le Seigneur va te faire entrer dans une autre dimension. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Le Dieu de Jacob, encore aujourd'hui, la puissance de la grâce. Et c'est alors que Jacob a connu l'expérience des Peniel, que le Seigneur se dit, voilà, maintenant, il est prêt. Je vais nous annoncer un principe. Oublie tout ce que j'ai dit, mais n'oublie pas ça. Une leçon apprise, non comprise, sera reprise. Répète-le à ton voisin. Si tu oublies, tu dis, ça m'a prise, il comprendra. Le dernier passage que nous avons lu, nous voyons Dieu dire à Jacob de retourner à Bethel, de remonter à Bethel. Pourquoi? Parce que le jour où Jacob a vu la vision de l'échelle, le Seigneur voulait que Jacob saisisse quelque chose qu'il n'avait pas saisi. Et quand Dieu s'est rendu compte de cela, il s'est dit, non, il n'est pas encore prêt à recevoir ce que je veux lui donner. Il faut qu'il passe par une expérience personnelle avec moi. Il faut qu'il passe par Peniel. Et c'est après, quand il est passé par Peniel, que Dieu a regardé Jacob. Dieu s'est dit, maintenant il est prêt. Pourquoi? Parce qu'il a acquis une certaine maturité. Il y a des choses que tu ne possèdes pas encore parce qu'il te manque une certaine maturité. Dieu dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses que nous ne saisissons pas maintenant parce que nous ne sommes pas suffisamment connectés à Dieu. Il y a des choses que nous demandons à Dieu que Dieu ne nous donne pas parce que nous ne sommes pas encore là où il veut que nous puissions être sur le plan spirituel. Alléluia. Et quand il est passé par Peniel, Dieu s'est dit, ça y est, Maintenant, il va saisir ce que Bethel veut dire. Et il dit à Jacob, retourne à Bethel. La Bible nous dit que Jacob se retourne vers ses épouses et ses enfants. Il leur dit, donnez-moi vos dieux, les dieux étrangers que vous avez, et purifiez-vous, changez vos vêtements, car nous allons monter à Bethel à la rencontre de Dieu. Maintenant, son attitude change. Il va vers Dieu différemment. Pourquoi? Parce que Peniel a changé sa manière de voir Dieu. Peniel a changé sa perception de choses de Dieu. Peniel a transformé sa vision. Et la Bible déclare que Jacob, après avoir été visité de nouveau par Dieu, il dit, cet endroit ne sera plus appelé Bethel, cet endroit sera désormais appelé El Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu, El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Désormais, Jacob n'était plus impressionné par des choses que Dieu pouvait faire. Jacob était impressionné par Dieu lui-même. Désormais, ce n'était plus la maison qui était redoutable. Désormais, c'était Dieu lui-même qui était redoutable. Jacob est entré dans une autre dimension de Dieu. Jacob a développé une autre intimité avec le Seigneur. Il s'est dit, Seigneur, maintenant, ce n'est plus ce que tu me donnes. Père, quand tu me donneras, je te bénirai, même je te servirai. Mais quand tu ne donneras pas, je te bénirai toujours et je te servirai toujours. Seigneur, si tu me donnes ce que je veux, je serai là, je témoignerai, je chanterai. Mais même quand tu ne m'auras pas donné ces choses, tu me trouveras toujours là, en train d'intercéder, en train de faire l'accueil, en train de chanter, en train de te servir. Parce que ce n'est pas les choses qui m'attachent à toi, c'est seulement mon amour, mon cœur qui m'attache à toi. Dieu atteint des hommes et des femmes qui peuvent s'attacher à lui par amour. Alléluia. Il dit, El Bethel, ce n'est plus ce que Dieu fait, mais c'est Dieu lui-même. Seigneur, je veux ta présence, rien que ta présence, et ta présence seule. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible déclare, ils se retrouvent devant le roi. Et le roi leur dit, semble-t-il, vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue. Vous allez être attentifs et au son de la trompette, vous allez vous prosterner. Ces trois hommes le regardent avec beaucoup de respect et lui disent, ô roi, nous n'avons même pas besoin de contester là-dessus. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Pourquoi? Parce qu'ils servaient le Seigneur. Et le roi est allé un peu plus au-dessus et il leur dit, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et même qu'il déclare, qu'il ordonne qu'on augmente sept fois la chaleur de la fournaise. Ces hommes le regardent et disent, ô roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, lisez vos Bibles, la Bible dit, même si Dieu ne nous délivre pas, sinon, s'il arrivait que le Seigneur n'intervienne pas en notre faveur, nous n'allons pas nous prosterner. Il voulait dire au roi, nous ne sommes pas attachés à Dieu parce que Dieu nous délivre. Nous ne sommes pas attachés à Dieu parce que Dieu nous accorde des choses que nous lui demandons. Nous sommes attachés à Dieu par amour et par soumission. Peu importe le temps, je serai soumis. Peu importe les circonstances, je resterai soumis. Peu importe les effets. Ah! Dieu, ce matin, cherche un homme, cherche une femme qui va lui dire, Père, désormais, je m'attache à toi. Ce n'est plus les circonstances de la vie qui vont faire que soit j'augmente, soit je diminue. Peu importe ce que je vais vivre, je veux rester attaché à toi. Je veux rester connecté à toi. Draw me close to you. Chanda mo